rubrique Enquête de science de notre ami Alain Siroux, que je salue. Alain, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Alain, comme chacun sait, il faudra attendre encore un petit moment, mais enfin c'est très variable selon les types d'établissements ou de lieux historiques, pour pouvoir aller au musée ou dans des sites de fouilles archéologiques, etc. Par exemple, le 6 juillet, le Louvre va rouvrir avec un protocole sanitaire ultra strict, mais certains sites en France ou à l'étranger seront, dites-vous, beaucoup moins accessibles, et ce pour très longtemps, d'où l'idée assez extraordinaire, faut le dire, de voyager dans l'espace et dans le temps comme si on possédait une sorte de machine temporelle, celle que je voyais dans les bandes dessinées des années 60, là. Expliquez-nous.
Ben d'abord, je vais vous dire qu'il ne s'agit pas du tout de science-fiction. Je ne vais pas parler de fiction.
Mais non, vous êtes un savant.
Mais d'un projet européen baptisé Time Machine qui a été imaginé en 2012 par l'École Polytechnique de Lausanne.
Excellente école.
Excellente école, et auquel adhère aujourd'hui 475 institutions comme le Louvre, l'IGN, ou des villes comme Venise, Prague, des sociétés comme Ubisoft, vous voyez. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, aujourd'hui, lorsque vous préparez votre voyage, Bernard, eh bien, vous allez sur le web, via un moteur de recherche, eh bien, vous trouvez facilement des infos, des photos, des noms de contacts. Vous pouvez même voir les paysages qui entourent la maison que vous voulez louer, les menus des restaurants qui sont les plus proches. Alors vous avez vraiment tout. L'idée de Time Machine, c'est de faire la même chose, mais dans le temps. De fabriquer le moteur de recherche du passé.
Incroyable. Alors avant d'aller plus loin, je précise que l'IGN, c'est l'Institut Géographique National, qui fait notamment les cartes au 25 millième de randonnée. Alors, on revient à votre histoire de Time Machine. Comment fait-on? Ça n'existe pas, le web de l'histoire.
Non, vous avez raison. Mais il existe des quantités astronomiques d'informations sur le passé. Prenez une ville comme Marseille, que vous connaissez bien.
Allons-y.
On a des cartes, des photos, des tableaux, des livres qui en parlent. On a aussi des actes notariés, des plans d'architectes. On dispose d'archives historiques, en tout des dizaines, parfois des centaines de kilomètres de fonds documentaires qui sont autant de sources pour fabriquer les big data du passé. Alors, à partir de là, le travail se fait en trois étapes. D'abord, on numérise les documents.
Oui.
Ensuite, on va essayer de les comprendre et de croiser les données. Par exemple, on va rapprocher les cadastres et les actes notariés qui permettent d'identifier les propriétaires des parcelles et de connaître exactement les affectations des lieux. Une boutique, un café, un artisan. Et puis enfin, on va fabriquer un portail temporel de la ville. On va tenter de la voir telle qu'elle était en 1950, en 1900, avec ses rues, ses édifices, ses commerces de l'époque et ses monuments historiques.
Mais ne serait-ce que pour les architectes d'aujourd'hui, c'est un outil extraordinaire.
Formidable,
machin-là, si ça marche. Donc je comprends qu'on puisse fabriquer une base de données, mais vous parlez de voir. Donc comment peut-on se promener, faire du tourisme dans l'histoire?
Alors, ça c'est grâce aux techniques de l'intelligence artificielle et en particulier à celles des jeux vidéo. Avec les informations collectées sur le passé, vous voyez, ces fameuses big data dont je vous parlais, eh bien les machines d'abord vont reconstruire les villes et à l'aide des casques de réalité virtuelle vont nous plonger en 3 voire 4D dans le monde de l'époque. Ouais. J'insiste, c'est pas un jeu mais une immersion dans un environnement reconstitué à partir des informations du passé. À Paris, à Marseille ou à Venise, vous pourrez, Bernard, visiter des monuments disparus. Vous pourrez vous promener dans des rues, sur des places qui n'existent plus. Vous pourrez même écouter les ambiances avec des sons reconstitués de métiers anciens comme les lavandières ou les tanneurs dans les rues. Et si vous êtes né dans une ville qui est numérisée par Time Machine, alors vous pourrez aller sur la trace de vos ancêtres, voir là où ils vivaient, là où ils travaillaient et leur environnement.
Et quand est-ce qu'on pourra voir les premières villes du passé, là?
Alors, ça commence. Ça se fait d'abord par bout, à Paris, Venise, des villes comme Lille, où les développeurs testent, en fait, leurs outils de tourisme virtuel. Parce que tout le monde a conscience que c'est un trésor pour la connaissance, pour le multiculturalisme, pour l'écologie, parce qu'on va voyager sans se déplacer, si je puis dire, et l'imagination. À terme, on devrait pouvoir visiter l'essentiel des grandes villes européennes d'aujourd'hui jusqu'à l'an 1000.
C'est phénoménal, ce truc-là. Je demande à voir, mais c'est phénoménal. Merci beaucoup, Alain Siroux, le scientifique du week-end sur Europe 1.
6h23, bon réveil avec Europe 1.
Isabelle a